Bonjour, bienvenue à Aime l'été. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau en ce mercredi 19 juillet. Que vous nous écoutiez de Montréal, d'un peu partout au Québec ou d'ailleurs, je vous invite à passer la prochaine heure avec nous. Une heure de rencontre autour d'escapades, de théâtre, de réflexion. On découvre nos régions le temps d'un festival et on échange avec des gens investis dans leur communauté. Soyez des nôtres du lundi au vendredi de midi à 13h. C'est Aime l'été. Et au menu de l'émission aujourd'hui, on accueille notre chroniqueuse Élisane Pellerin, professeure d'université, professeure à l'Université du Québec à Montréal, qui vient nous parler à chaque semaine de sujets en lien avec des situations de handicap. Il sera question aujourd'hui du théâtre documentaire Rose et la machine qui a été présenté au Théâtre Jean Duceppe en 2022, qui était en tournée en 2023 aussi. La pièce Rose et la machine qui traite des défis auxquels font face les parents d'enfants qui reçoivent un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Également à l'émission, nous allons recevoir Sarah Rouleau de l'INCA, l'Institut national canadien des aveugles. On en saura davantage sur cet organisme qui permet aux personnes atteintes de cécité de réaliser leurs rêves en éliminant les barrières pour favoriser l'inclusion. Mais d'abord, je discute dans un instant avec Clément Turgeon à propos du festif de Charlevoix. Alors, on file vers cette belle région du Québec. Suivez-nous à Aime l'été. Eh bien, bonjour à tous. Oui, et puis j'accueille tout de suite Clément Turgeon. Bonjour, Clément Turgeon.
Bonjour.
Alors, on est tout de suite dans votre belle région, là. Je me fais tout de suite l'idée là, que je suis à Charlevoix. Et puis bon, alors, vous êtes fin prêt pour ce nouveau festif de Baie-Saint-Paul?
Oui, tout à fait. 14e édition. C'est ma 14e. Je suis là depuis la première
Mais
année.
Mais oui! Donc,
ouais,
vous étiez un pionnier. En fait, fort heureusement, c'est que, tout a commencé autour de. Évidemment, tout commence toujours autour d'une bière ou à peu près, parfois, les grandes idées, finalement, avec des copains. Ah, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Alors, fort heureusement pour nous que cette rencontre a eu lieu un beau soir, finalement, et puis, de fête et de. Bon, alors voilà, où peut-être l'alcool coulait à flot, mais qu'importe, vous avez gardé votre idée et puis finalement, de fil en aiguille, ce festival est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors vraiment, c'est ça, vous étiez tenace. Mais il faut dire aussi que vous êtes d'une région où quand même le Cirque du Soleil a passé bien avant. C'est une région de créateurs.
Oui, c'est ça qui nous a motivés. Moi, c'est vraiment un peu l'inspiration du Cirque du Soleil là, au départ qui m'a donné... Cette idée-là, là, ça a vraiment été un coup de tête. On n'avait jamais fait d'événement, aucune expérience là-dedans. Moi, j'étudiais à l'université en travail social. J'ai abandonné l'université pour partir ça. Donc, on a vraiment tout misé dans cette idée-là qui finalement, ça a rapporté. On en parle encore après 14 ans.
Mais c'est ça. Donc, et c'est devenu vraiment un festival à grand déploiement, donc qui va avoir lieu du 20 au 23. Alors, c'est vraiment à partir de demain que ce sera... qu'on pourra finalement voir tous ces artistes. Et puis bon, c'est ça donc cet événement qui, en fait, nous réserve bien sûr toute une programmation musicale. Mais en fait, c'est ça, parlez-nous aussi de l'ambiance. D'abord, je voulais juste faire une petite mise au point parce que vous avez été très touché au printemps par les inondations, en fait, à Baie-Saint-Paul. Comment ça se passe là présentement? Tout va bien?
Oui, tu sais, je peux pas parler à la place des sinistrés. Pour ceux qui ont été touchés, c'est encore, je suis certain que c'est encore très difficile. Ils n'ont pas les réponses à tout et tout ça. Sur le terrain, nous, le site du festival comme tel, les différentes scènes n'ont pratiquement pas été touchées. Il y a seulement un camping, un endroit qu'on exploitait en camping pour les festivaliers qui a été touché, mais sinon, tu sais, les festivaliers vont retrouver le festif normal, là, finalement. Et on espère que les gens qui ont été touchés vont pouvoir aussi, eux, en profiter un petit peu, puis que ça va peut-être mettre un petit peu un baume sur tout ce qui est arrivé dans les derniers mois.
C'est ça. Donc, finalement, vous avez célébré votre 10e anniversaire. Après ça, vous nous aviez, il y a quelques années, et puis là, vous nous aviez préparé une 11e édition fort intéressante, mais bon, est arrivée la COVID, et puis là, bon, l'an passé, en fait, oui, on a quand même fait une entrevue, justement, l'an passé, et puis bon, ça, l'édition de l'an passé s'est bien déroulée.
Oui, tout à fait. On avait eu... on avait été challengé beaucoup sur les orages, on avait eu des évacuations, donc c'était une belle édition, mais qui avait été encore un défi à réaliser. Donc là, on espère cette année, ça va être mieux. La météo est en train de changer de notre bord. Là, on annonçait des orages aujourd'hui, on n'a pas eu. On annonçait beaucoup de pluie vendredi. Le système est en train de passer. Nous, on est rendu avec un météorologue là, qui nous informe pratiquement en temps réel. Ça nous permet de mieux planifier s'il y a de la pluie ou des orages. Là. Puis à date, on va s'en tirer quand même bien là, cette année. Je pense que ça va être vraiment une très belle édition. J'ai confiance.
Ben, j'espère bien parce que c'est tout un défi. Hein. Effectivement, on a beaucoup de festivals à travers le Québec et puis, bien sûr, une programmation à chaque fois. Bon, tout le monde rivalise d'imagination et puis, bien sûr, il faut programmer hein, ces artistes. Alors, c'est vraiment tout un défi d'organisation et tout. Alors, c'est sûr que là, la météo, ça fait partie du problème. Et puis, bon, en tout cas, on vous souhaite évidemment que ça se passe bien cette année. Alors justement, ben, vous avez plusieurs scènes, il faut le dire. Alors c'est vraiment un des beaux festivals du Québec, il faut le dire. Là. Et puis bon, c'est tellement une belle région aussi. Et puis donc, vous avez à la fois grandes scènes, mais il y a différents lieux aussi qui sont intéressants.
Oui, ben, c'est un peu la structure du festival, c'est qu'on se déploie vraiment partout dans la ville. On fait des shows dans les cours arrière de des citoyens, la cour Joanne, entre autres. On fait des spectacles sur des balcons au garage du curé. Donc le curé nous laisse... prendre possession de son garage et du presbytère, la cour du presbytère, on fait des spectacles rock, là. On a des spectacles dans des salles de quai, des magasins de linge, des casernes de pompiers. On fait vraiment des spectacles un petit peu partout, puis c'est ça que les gens aiment, là. Finalement, ils découvrent vraiment la ville à travers les scènes qu'on choisit.
C'est ça. Donc, effectivement, c'est intéressant parce qu'on peut se déployer sur toute la ville. Maintenant, bon, alors, c'est un festival, bien sûr, qui a pris de l'ampleur. Et puis, bon, vous accueillez quand même des artistes de partout, maintenant.
Oui, on a, écoute, demain, on a des artistes de l'Ukraine qui viennent nous voir, de la Belgique. On va avoir des artistes de l'Australie, de Barcelone en Espagne, de la France... des quatre coins de la planète finalement, puis c'est ce qui fait aussi justement la signature de l'événement, c'est qu'on est très c'est une programmation très éclectique.
C'est ça. Puis événement éco-responsable, toujours important de le dire. Là. Bien sûr, bon, vous êtes dans une région où ben, il faut aussi en tenir compte de l'environnement et tout. Et puis intégrer, et bien sûr, aussi toute la population. Hein. C'est vraiment, comme vous dites, vous êtes dans la cour arrière des gens ou presque.
Ben exactement, fait que ça prend un niveau d'acceptabilité sociale élevé finalement, tu sais, pour que les gens nous fassent confiance puis nous permettent de faire des shows dans leur cours. Donc puis l'éco-responsabilité, ben on est très éco-responsable, oui, l'écologie, l'environnement, mais aussi justement tout le volet social qui est important dans les politiques de développement durable, finalement.
C'est ça. Et puis bon, alors évidemment, comme il y a plusieurs scènes, vous offrez des navettes gratuites. Alors ça, c'est pas un problème pour les gens, les touristes qui vont aller chez vous, là. C'est facile de se déplacer sans aucun problème.
Ouais. Exactement, oui.
Bon, et puis maintenant, on va parler de cette programmation. Donc, ça commence demain. Demain, ben, vous avez quand même des noms comme Dumas, Daniel Bélanger. C'est quand même très bien, là.
Oui, oui, oui. On a une... Demain, en fond, c'est... une journée qui commence à 17h. Normalement, on commence son spectacle vers 11h le matin, le vendredi, samedi. Demain, ça commence à 17h avec Philippe B. On a Dumas, Daniel Bélanger. On a beaucoup de spectacles aussi en après-festif. Mon oncle Serge et Anonymous. On a Claudia Bouvette, Milk and Bone, Valère. On en a une quinzaine demain déjà.
C'est ça. Donc, et puis vendredi, ça se poursuit. Patrice Michaud, Ingrid Saint-Pierre.
On en a beaucoup. On a aussi ben, Bleu Jeans Bleu, Sarah Dufour, Les Trois Accords. La liste est assez longue. Là, on
oui.
a une centaine d'artistes au total. On a des spectacles surprises aussi qu'on ne peut pas dire les noms. on va vous dévoiler des spectacles seulement 30 minutes avant. Donc, il y a des artistes que les gens aiment beaucoup qui ne sont pas annoncés publiquement. Puis on va envoyer un texto 30 minutes avant à ceux qui sont abonnés. Ça va leur annoncer un spectacle là, qui n'était pas déjà dévoilé.
Ah oui, ça c'est intéressant, c'est effectivement le spectacle surprise. Et donc demain pour les plus jeunes, ben justement, enfin Calamine aussi pour ceux qui connaissent. Enfin, il y en a plein, évidemment. Je veux pas, la liste est longue. Samedi, il y a quand même Jean-Michel Blais qui vous visite en formule quatuor.
Oui, exactement. On est super content de l'avoir en formule quatuor au quai. Donc, à côté du fleuve, c'est gratuit. Donc, c'est rare qu'on peut voir Jean-Michel Blais gratuit. On a, pour grand public, on a Patrick Normand aussi qui va être là, les vulgaires machins. On a des spectacles dans la cour à Joanne. Puis c'est là qu'on a aussi des spectacles à la caserne de pompiers. On a Greg Baudin, un rappeur connu avec Dead Obese. Donc, le samedi, c'est notre plus grosse journée. On a aussi des activités gratuites sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qu'on appelle la rue festive. Donc, il y a des artistes de cirque qui se donne en prestation gratuite pour toute la famille.
Et puis c'est ça. Puis bon, c'est dimanche. Mais en fait, là, je pense que vous avez eu une demande aussi peut-être de la municipalité de finir peut-être un peu plus tôt dimanche, hein?
Oui, bien en fait, c'est vraiment venu de nous. Là, l'année dernière, on était en mode relance. Donc, on avait du financement pour allonger l'événement. On avait continué le dimanche jusque dans au début de la nuit. Mais là, par nous-mêmes aussi, on avait décidé que ça valait mieux de raccourcir, de finir à midi. Notre dernier spectacle, c'est Thierry Larose au quai. Ça, c'est dimanche midi.
Parfait. Et puis donc, c'est ça. Parfait. Ben, il y a Safia Nolin hein, qui sera là aussi dimanche, je pense. Ouais.
Oui, elle va être au concert à l'aube. Fait que ça, c'est un spectacle au lever du soleil.
C'est spécial. Oh là là, ouais, oui. Et pourquoi pas, parce que c'est si beau le matin, surtout à Baie-Saint-Paul. Alors vraiment, ça c'est très, très bien. C'est une belle initiative. Alors, vous avez gagné, évidemment, de nombreux prix et distinctions, c'est sûr. L'an passé aussi, notamment au gala de la Chambre de commerce de Charlevoix. Donc, vous êtes vraiment un festival à ne pas manquer du 20 au 23 juillet. Alors, ça a été un plaisir de vous parler, Clément Turgeon.
Bien, merci à vous.
Et au plaisir. À la semaine à l'année prochaine, oui.
Oui, parfait. Au revoir.
Au revoir. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me, oh? And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner watching you kiss it, oh. And I'm right over here, but why can't you see me, oh. And I'm giving it my, I just came to say goodbye. I'm
I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy it's taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. And Donna said I'm in the corner watching you kiss her. Oh no, and I'm right over. So far away, you're still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here.
Callum Scott, Dancing on My Own.
Et on accueille tout de suite notre chroniqueuse Élisane Pellerin, professeure à l'Université du Québec à Montréal, docteur en sciences politiques, mais qui vient toujours nous parler à chaque semaine de, en fait, de sujets en lien avec des personnes qui sont, à, en fait, c'est-à-dire des sujets en lien avec des handicaps. Là, bon, voilà, j'ai pas bien dit les choses, mais c'est pas grave.
On a compris.
On a compris, c'est ça. Voilà. Oui, c'est parce que finalement, Élisane et moi, on était occupés à parler, il faut le dire, un petit peu avant. Alors voilà, ça distrait un peu. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Ça me fait plaisir toujours de te retrouver. Et puis aujourd'hui, tu nous parles, et on part dans toutes sortes de directions, tu nous parles de théâtre, de théâtre documentaire.
Oui, aujourd'hui on parle de théâtre documentaire, plus particulièrement de la pièce Rose et la machine, qui est une pièce de théâtre documentaire donc qui a joué en 2022-2023 et qui va reprendre quelques dates en 2024.
Oui.
Et il y a un livre qui est sorti donc en 2022 qui reprend le texte de Rose et la machine. Donc pour ceux qui ne sont pas fans du théâtre, peuvent faire une petite lecture d'été avec les textes donc intégrales de la pièce, et c'est un bon livre qui se lit facilement également. Donc, il y a plusieurs options là, pour cette pièce-là, si on veut l'écouter, si on veut le lire.
Oui, et d'accord, pardon. Et il y a aussi, je pense, un court-métrage qui a été fait aussi, hein, suite...
Oui, un court-métrage qui a été fait, en fait, sur les coulisses de Rose et la machine, donc sur la façon dont la pièce a été montée. Il y a différentes entrevues aussi dans ce court-métrage-là qui expliquent... tout ce qui entoure la pièce. Il faut savoir que cette pièce-là, Rose et la machine... C'est Maude Laurendeau qui l'a écrite. Maude Laurendeau, qui est une comédienne québécoise qu'on a pu voir dans Yamaska, dans Nos étés, entre autres. Et Maude a une petite fille qui a été diagnostiquée donc de TSA, de trouble du spectre de l'autisme, alors qu'elle était jeune enfant. Et cette pièce-là va raconter, en fait, comment Maude a dû se battre contre le système là, pour avoir... des services pour sa petite fille, et ça explique en fait tous les obstacles qui vont être mis dans son chemin pour avoir des services les plus élémentaires, donc pour que la petite, entre autres, soit scolarisée, pour qu'elle ait des services d'orthophonie, des services aussi d'orthopédagogie, bon, tout ça. Et on voit que le système de santé actuel a quand même des problèmes. Et autour de ça, ben, on voit une maman qui essaie de, tant bien que mal, de comprendre son enfant et de s'adapter alors qu'elle n'était pas du tout, évidemment,
prête à ça.
Ben, à personne, je pense, n'est prête à ça dans l'optique où on ne le sait pas d'avance, bien sûr. Et donc, elle essaie de s'adapter à sa fille, elle essaie de trouver le juste milieu entre laisser sa fille être ce qu'elle est en tant que personne différente et essayer de la rentrer dans le moule pour que sa vie soit le plus facile possible, pour qu'elle puisse s'adapter à la société et qu'elle puisse vivre une vie la plus normale possible.
Le
donc, c'est
normal,
vraiment de trouver la
le
balance
juste équilibre, ouais.
Pour un adulte qui est confronté à ça. On reprend tout dans la pièce et dans le livre, toutes les réflexions qu'elle a eues par rapport à ça. Et c'est une très belle pièce qui finit bien, qui est quand même ensoleillée. Ça a l'air lourd quand c'est ça comme ça, mais qui est quand même ensoleillée. puis qui va à la fois montrer les travers de la société et à la fois montrer quelque chose de très beau, c'est-à-dire une maman et son enfant qui essaient de s'adapter et de se comprendre.
Oui, exactement. Il faut dire que, bon, d'une part, elle a été bien entourée parce que, alors, elle vit ses problèmes, ses difficultés, le choc, tout ça, et elle va s'apercevoir que c'est pas si simple, finalement. Et de là, bon, Rose est la machine, enfin, la machine étant le système de santé et puis, enfin, tous les intervenants qu'elle va rencontrer.
Le système de santé, le système d'éducation, et voilà. Il y a la société, plus largement, là, qui essaie de nous rentrer dans un moule là, quand on est un peu différent. Là.
C'est ça. Et puis, bon, puis les attentes des parents, et oui. Puis, bon, évidemment, c'est toujours du cas par cas aussi oui. Pour ces enfants-là. Il faut bien le reconnaître. Hein? Il n'y a pas un enfant qui a ce trouble du spectre de l'autisme qui est pareil. Alors,
oui, on dit qu'il y a autant de troubles du spectre de l'autisme qu'il y a d'autistes. Donc, chaque enfant est différent puis chaque enfant a des besoins qui sont un peu particuliers alors que les services sont faits pour la plus grande majorité. Donc, on ne peut pas évidemment faire des services au cas par cas. Donc, il faut trouver, encore une fois, un ajustement entre ce qui convient à l'enfant et ce qui convient à la majorité parce que les services sociaux au Québec ne peuvent pas prendre un enfant à la fois. Donc, c'est vraiment un espèce d'ajustement qui est difficile à faire avec les enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme parce que, justement, tu l'as dit, ils sont tellement différents les uns des autres.
Oui, exactement. Donc, ça rend les choses extrêmement complexes. Alors, donc, elle va partir avec ça, comme maman, là, et puis elle va documenter tout ça, finalement. Et là, bon, l'idée, peut-être, d'en faire du théâtre, finalement, du théâtre documentaire, bon, elle va rencontrer porte-parole qui, finalement, on pense à Annabelle Soutard, qui oui. A aidé aussi à monter J'aime Hydro avec Christine Beaulieu, également Tout Inclus, qui parlait de la situation des aînés en RPA. Oui. Donc, ça, c'est. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment spécialisés en théâtre documentaire. Donc, le théâtre documentaire, qui c'est intéressant parce que c'est. Bon, on est dans la réalité là, d'un sujet très précis. Et puis, c'est vraiment très particulier aussi. Je pense que c'est intéressant d'aller sur le site, d'en savoir davantage sur qui est Annabelle Soutard, qui sont ces gens. Alors, donc, cette dame qui va partir, qui va rencontrer les gens de porte-parole, et puis là, c'est là que ça va, que ces gens-là vont l'aider à monter la pièce.
Oui, Annabelle Soutard, qui est quand même reconnue mondialement là, pour le théâtre documentaire. Il y a le théâtre documentaire qui est un théâtre, mais qui se fie à la vraie vie. Donc, ce sont les vraies conversations de Maud Laurenteau qui ont été enregistrées, qu'on reprend dans la pièce, qu'on reprend dans le livre. Donc, évidemment, il y a toute une mise en scène qui a été bien faite par Edith Patnaud autour de ça. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans une conférence ou dans rien de tout ça. Il y a vraiment un décor et puis des scènes qui sont très bien faites. Mais ce sont les vraies conversations qui ont été enregistrées. Et donc, c'est ce qu'on appelle du théâtre documentaire. C'est particulier, mais en même temps, ça montre vraiment... avec une réalité très fidèle, ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Et effectivement, Maud Laurenteau, quand elle a vu les obstacles auxquels elle faisait face, et elle n'est pas la seule, bien sûr, elle a rencontré, puis on le voit dans la pièce et dans le livre, d'autres parents qui ont témoigné, des intervenants aussi qui ont témoigné des différents obstacles auxquels ils font face. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment matière à ce point-là parce que tout le monde se retrouve plus ou moins dans ce qu'elle dit et c'est vraiment une réflexion sociale qu'on a à faire sur quelle est la pièce de ces enfants-là qui sont différents dans la société. Donc effectivement, elle est allée voir Annabelle Soutard pour lui proposer la pièce et ils ont monté ça ensemble et ça donne quelque chose qui est fantastique, qui est lumineux et qui remet en question chaque personne, je pense à la salle et chaque personne, chaque lecteur de mon livre va se remettre en question par rapport à ce que Maud Laurenteau propose
en quelque sorte, c'est ça, exactement. Donc, ça amène une réflexion, chez les gens qui ne sont pas nécessairement touchés par ce problème-là, finalement, qu'ils ne l'ont pas vécu et qui ne le vivront peut-être jamais. Mais en fait, c'est vraiment de voir aussi quelle est la réalité d'aujourd'hui. Maintenant aussi, de mettre je pense aux autres parents qui vivent cette situation-là, parce que c'est extrêmement anxiogène, si on veut, quand arrive le diagnostic. Alors, la pièce, évidemment, c'est très éclairant aussi pour ces gens-là. Donc, il y a eu, j'imagine, beaucoup d'échanges suite, parce qu'il y a toujours des discussions suite à la présentation présentation de la oui. pièce en général. Alors, les parents qui vivent un peu la même situation, c'est un moment d'échange incroyable, finalement.
Oui, ben en fait, après les pièces, effectivement, Madame Laurando et Julia Breton, là, qui est la deuxième comédienne sur scène, qui joue tous les autres personnages, alors que Maud Laurando va se jouer elle-même. Ils viennent à la fin pour ouvrir la discussion. Et ça va bien au-delà des parents qui sont parents d'enfants avec un trouble de l'autisme. On parle de la différence beaucoup plus largement. Hein, comment on s'adapte en tant que personne qui est différente, en tant que personne qui ne sent pas qu'elle fit dans le moule. Et ça, il y a différentes personnes qui peuvent se sentir comme ça, hein? Pas juste simplement
non,
les personnes.
Non, on en a déjà parlé, bien sûr, oui.
Et donc, toutes les personnes qui sont pas exactement ce qu'on attend d'eux socialement vont sentir cette pression-là. Et tous les parents vont essayer, comme je le disais, de trouver la balance entre intégrer l'enfant et laisser être lui-même. Donc, effectivement, ça pousse à réflexion en tant que société, à savoir jusqu'à quel point on doit se conformer pour être capable de vivre socialement, pour être capable de s'intégrer et jusqu'à quel point on peut rester nous-mêmes, au contraire. Donc vraiment, je pense que tout le monde se retrouve dans ces
Mais
questions-là.
Mais tout à fait. Puis d'ailleurs, bon, ici, je pense que c'est notre mission, nous, on parle de beaucoup d'inclusion, c'est vraiment notre raison d'être, en quelque sorte, ici à Canal M. Mais en fait, bon, c'est intéressant de savoir, avant qu'on aille à la pause, bon, Julie Le Breton, elle avait déjà un lien
oui.
avec... C'est sa belle-sœur.
Oui, c'est sa belle-sœur. c'est la marraine de la petite Rose, qui est la première enfant de Maud Laurando, qui aurait eu une petite fille par la suite. Donc, effectivement, elle est très touchée de ça. Elle a vécu tous les défis de Maud Laurando de près, hein, parce que étant la marraine de la petite, et ils ont décidé de faire ça ensemble, mais ça donne à la pièce quelque chose de très intime, parce qu'elles savent toutes les deux au travers de quoi elles sont passées. Et Julia Breton étant une comédienne très reconnue, une comédienne d'exception, il faut le dire, elle joue quand même 43 personnages dans la pièce.
Oui.
Et elle le fait de façon magistrale. Donc, je pense que Julia Breton a pu apporter un éclairage à sa façon, à cette pièce-là, et apporter de la publicité dont on avait bien besoin pour cette pièce-là, parce que je pense qu'il fallait la faire rayonner le plus largement possible. Parce qu'elle est tout à fait pertinente.
Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, elle a été aussi récompensée
oui,
pour son rôle.
Hein? Il y a eu plusieurs récompenses pour le rôle de Julia Breton et plus largement là, pour la pièce. C'est une pièce qui est très bien faite et qui enchaîne, oui, tous les prix et toutes les reconnaissances.
Oui,
c'est effectivement, elle est extrêmement pertinente.
Bon. Élisane, on continue à jaser après la pause. Tu restes là. Tantôt.
Vous écoutez Aime l'été.
Bon, alors, on était de retour avec Élisane Pellerin, notre chroniqueuse, hein, qui nous parle toujours de sujets, en fait, en lien avec des situations de handicap. Et puis, là, on parlait de la pièce Rose et la machine, qui n'est pas présentée présentement, là, mais en fait, elle l'a été en 2022 chez Duceppe, et puis elle a été présentée en tournée en 2023. En fait, il y a des dates qui sont prévues aussi en 2024. Alors, ça va continuer, de toute façon. Allez sur le site, et puis vous allez tomber sur des dates à venir, ça c'est sûr. Rose et la machine, et ça c'est une production en fait de porte-parole, évidemment,
oui.
ce groupe spécialisé en théâtre documentaire avec Annabelle Soutard qui a participé étroitement à toutes ces créations. Là, on pense à M. Hydro, J'aime Hydro et aussi Tout Inclus, voilà, et Rose et la machine, enfin de beaux projets, évidemment, théâtre documentaire, comme on le disait, qui est très investi dans la vraie vie parce que,
oui.
comme tu le disais, Élisane, ce sont des... tout est documenté dans le sens que c'est pas inventé, là. C'est pas un scénario... bon, c'est pas des textes. C'est vraiment des textes qui sont issus de
vraies
conversations.
Oui, qui ont été enregistrées. Et puis, on a fait un livre aussi avec ça. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au théâtre, peuvent toujours accéder au livre de façon à la fois électronique et au livre papier. Donc, il y a différentes façons d'entrer en contact avec cette pièce-là, mais effectivement, pièce qui va mettre en scène les vraies conversations de Maud Laurando par rapport à sa petite-fille, à l'intégration de sa petite-fille, tant dans le système de santé que dans le système scolaire, et qui va donner des exemples absolument farfelus, à la fois drôles et tragiques.
Oui, tu peux nous donner des exemples, d'ailleurs.
De ce qu'elle va vivre, donc... Il y a Petite Rose qui, par exemple, arrive à l'école la première journée et qui fait face à des toilettes automatisées, donc qui sache qu'il est tout seul. Et donc, elle a extrêmement peur de ce bruit-là,
oui, oui, oui.
La pauvre cocotte, et donc ne peut pas aller aux toilettes. Et quand Madame Laurando dit « Écoutez, il va falloir trouver une solution », ben tous les intervenants sont en rentrée scolaire, ça bouge, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup
personne
de
soldats.
Personne n'a le temps.
Ouais.
Et donc, elle dit « Oui, mais bon, ma fille doit aller aux toilettes », et on lui répond « Ben écoutez, on fera un plan d'intervention dans les prochains mois ». Et bon. À la fois, les intervenants sont débordés, et à la fois, on a une maman qui dit « Oui, mais bon, moi, ma petite fille a besoin d'aller à la salle de bain de façon régulière ». Donc, c'est un des exemples parmi tant d'autres qui montrent à quel point c'est absurde, mais à quel point pour un enfant ça peut devenir extrêmement compliqué de faire une journée d'école.
Oui, exactement, parce que bon, surtout quand ces enfants-là sont jeunes, là, quand on les intègre à l'école, ça doit être extrêmement complexe. Et puis donc, elle décrit toutes sortes d'anecdotes.
Toutes sortes
ça.
De situations où sa petite fille a été confrontée à d'autres enfants qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qu'elle a, puis pas nécessairement capable d'aller par devant sa différence. Donc, c'est le seul enfant qui sera pas invité, par exemple, à une fête d'un collègue de classe. Tous les autres vont être invités et elle va se rendre compte qu'elle a pas d'invitation dans son casier alors que tous les autres en ont un. Ce genre d'anecdote-là, à la fois, comme je le disais, drôle et tragique, mais qui nous montre à quel point un enfant tout jeune, qui a 5 ans, essaie de s'intégrer et comment les autres enfants, ben, en étant des enfants, ne comprennent pas nécessairement. Et parfois, même les parents, on va avoir accès à différentes conversations avec les parents qui sont maladroits. Les autres parents qui essaient de comparer Rose à leur propre enfant, qui ne comprennent pas pourquoi Rose n'est pas aussi verbale qu'eux, pourquoi elle n'est pas aussi au niveau moteur aussi développée, et qui vont maladroitement poser des questions et faire des commentaires sur la petite fille qui ne se veut pas méchante, mais qui devient lourd là, pour les parents, et bien sûr qui montre à quel point on est en tant que société très timide par rapport à la différence, c'est très mal à l'aise par rapport à la différence. Comment on ne sait pas réagir par rapport aux gens qui sont différents de nous?
Oui, bien sûr. Ben, d'ailleurs, les gens qui sont en fauteuil roulant, quelqu'un, bon, tu nous as parlé de toi-même aussi, à quel point, bon, tu as vécu des situations un peu cocasses à la
oui,
fois.
Oui, voilà.
Mais, tu as pris ça en riant, mais au fond, c'était pas si drôle que ça. C'est-à-dire de penser que quand tu te présentais dans un hôtel, je veux dire, les gens pensaient que tu étais ivre, alors on ne voulait pas te louer
oui,
une chambre. Alors, tu sais, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde.
Dans un hôtel, entre autres. Bon, c'est sûr que pour nous, là, juste aller faire une épicerie, hein, ça peut être quelque chose d'un peu rock and roll, là, pour différentes raisons, hein, parce que les gens ont des commentaires, parce qu'on essaie de faire de notre mieux, mais c'est pas toujours adapté, parce que on essaie de vivre notre vie, mais il y a différents obstacles sur le parcours qu'on n'avait pas vu venir en se levant ce matin-là.
Puis on te remet toujours devant cet état de...
Oh, mais sans arrêt! Totalement. Les gens, encore une fois, ne veulent pas mal faire, mais sont parfois très maladroits envers moi et envers les gens qui sont comme moi, donc qui sont différents. Ils vont essayer de montrer une certaine compassion, mais de façon un peu étrange.
Ouais.
Donc, ça donne des choses qui sont à la fois très cocasses, mais qui peuvent être lourdes à la longue.
Quand
8h15 le matin, puis tu t'en allais chercher une peine de lait, puis qu'il y a quelqu'un qui vient te voir pour te dire comme « Mon Dieu, t'es belle, c'est dommage que tu sois handicapée », ça peut être lourd à la longue.
Oui, exactement. Donc, ou penser que tu marches croche, mais bon, la personne peut penser « Mon Dieu... »
Elle est
ivre, parce que ça peut sembler aussi la façon de parler. Y a Anaïs Sabourin, notre chroniqueuse et recherchiste aussi à l'émission, qui, elle, est en fauteuil roulant. Donc, elle aussi se fait constamment placer devant sa situation. Et puis, par exemple, ça peut être des enfants qui posent une question et puis les parents qui sont un peu maladroits.
Oui, voilà, les enfants, généralement, sont beaucoup plus à l'aise.
Ils sont plus spontanés.
Ils vont poser une question.
Ouais.
Généralement, là, c'est très gentiment et on a tendance, nous, je ne veux pas parler pour les autres, mais généralement, on a tendance à répondre aux enfants. Il y a plus...
Le plus naturellement.
Naturellement possible. Alors, que ça nous dérange moins, en fait, qu'un enfant nous pose la question plutôt qu'un adulte qui vient poser un commentaire qui est parfois plein de jugement. Mais effectivement, on voit les adultes là, qui sont catastrophés qu'un enfant nous adresse la parole, qui vont le tirer par l'arrière et puis qui vont être même fâchés.
Oui, qui vont fâchés, dire, ben, dis pas ça, laisse faire, là. Bon, enfin, au lieu de dire, ben, va poser la question à la dame et puis elle va te répondre, tu sais, bon.
Donc, mais, effectivement, c'est souvent avec les parents qu'on a ce type de situation-là, mais bon, il faut s'y faire, hein, ça fait partie de notre quotidien.
Ouais.
Mais en même temps, effectivement, comme je le disais, ça peut devenir des journées où tu te sens moyennement bien et où tu as besoin de sortir quand même parce que tu as besoin de quelque chose à manger puis d'être confronté à 5, 6, 7, 8 commentaires alors que tu te sens pas bien parce qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie. Ça peut être difficile là, à faire face. Là.
Mais en fait, comme toi, tu es professeur d'université, donc tu rencontres des jeunes de toutes sortes aussi. Hein?
Oui.
Bon, tu n'es pas la seule sur le campus, forcément. Et puis, tu deviens un modèle aussi, en quelque sorte. Tu peux inspirer d'autres jeunes, évidemment, qui sont rendus à un niveau universitaire, qui ont déjà pas mal bataillé, je dirais, pour arriver
se rendre
là.
Oui, il faut batailler, mais bon, je fais aussi de la suppléance dans des écoles primaires et secondaires, donc effectivement, ça m'arrive là, que des jeunes viennent me voir, que des parents viennent me voir là, pour me demander comment j'ai fait là, pour en arriver là, être encore en un morceau. Et effectivement, ça a été un combat pour moi. Je pense que ça a été un combat pour toutes les personnes qui sont différentes d'une façon ou d'une autre dans le système scolaire actuel. C'est sûr que tant mieux si on peut ouvrir les portes. Je pense que plus il y a de personnes différentes dans les classes, et plus on ouvre les portes.
Tout à fait, c'est
et
ça.
Et on arrive à faire changer les choses, faire changer les mentalités, ce qui fait en sorte que les professeurs et tous les intervenants sont moins surpris la fois d'après. Donc, il faut quelqu'un qui défonce la porte, et tant mieux si je l'ai fait à quelques reprises, et il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi, et je le ferai pour les prochains, et je pense que c'est une chaîne qui continue de génération en génération, on arrive à être de plus en plus ouvert, et les choses changent quand même.
Ah oui, ça évolue, bien
ça
sûr.
Ça évolue,
on va
de mieux en mieux dans tout ça. Effectivement, c'est là, mais je pense que tous les changements sociaux sont là. Donc, il faut prendre notre main à la patience, puis il faut faire notre part des choses comme on le peut. Donc, tant mieux si j'y arrive, tant mieux si d'autres y arrivent avant
Tout
et après moi.
Puis on aura l'occasion d'en reparler, Élisane. Alors, vraiment, Rose et la machine, hein, ce théâtre à suivre. Et puis voilà, beau sujet aujourd'hui. Merci, Élisane. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir. Le ciel est rempli de lumière. Je veux pas regarder.
Sarah Bourdon, Carnaval.
Bon, voilà, merci. Merci Nicolas. Nicolas Zwartman à la mise en onde et au choix musical. Et j'accueille à l'instant Sarah Rouleau, qui est une habituée de Canal M, chroniqueuse de l'émission au quotidien avec oui. Hélène Denis, bien sûr. Alors, c'est ça, vous allez nous parler de l'INCA, l'Institut national canadien des aveugles. De toute façon, vous avez l'habitude oui. d'en parler, vous êtes une chroniqueuse habituelle, mais vraiment, là, vous allez aussi, entre autres, nous parler de ce qui se passe cet été, puisqu'on est à M l'été. Alors, vraiment, vous êtes chargée des communications, oui. marketing, événements spéciaux. Alors, vous connaissez bien, vous êtes là depuis longtemps aussi.
Oui, ça fait 7 ans. Oui.
Alors, vous avez connu le centenaire, l'anniversaire
on a célébré
du centenaire. Oui.
Oui.
C'est ça, donc. Et je pense que le fait de réaliser que c'était votre centenaire, je pense que ça a donné l'impulsion pour donner un grand boom, là, finalement. Vraiment, vous avez beaucoup évolué depuis, évidemment, depuis 100 ans, bien sûr, mais depuis aussi cet anniversaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé. Alors vraiment, vous êtes très, très, très dynamique.
Oui, effectivement. On a été créé en 1918, donc il y a un petit peu plus que 5 ans, on fêtait en 2018, on fêtait nos 100 ans. Puis c'est vrai que notre dernier plan stratégique qui s'achève, là, ça nous a permis de créer plusieurs nouveaux programmes. Donc, on va en parler aujourd'hui, là, mais oui. on a plein de programmes. On avait remodifié aussi là, notre site web à l'époque, changé un petit peu notre mission, mise à jour notre mission. Qui est de changer ce que signifie d'être aveugle. Puis ça, on peut le voir de deux façons. Donc, pour les participants, on offre des programmes pour leur permettre la vie dont ils rêvent, qu'ils puissent le rêver de tout ce qu'ils veulent, mais aussi changer les mentalités, défendre les droits avec nos initiatives de défense des droits. Et à l'époque, quand on a célébré nos 100 ans, on voulait aussi là, beaucoup miser sur la... comment je pourrais dire, sur le fait de mettre la technologie dans les mains des personnes aveugles.
Oui, c'est ça.
Puis de les former. Donc, on a étendu, je dirais, là, ce programme-là de technologie qu'on avait déjà, mais avec rendre l'appareil, notamment là où on collecte les téléphones intelligents pour les mettre dans les mains des personnes aveugles. On voulait augmenter l'égalité, donc plus en lien avec la défense des droits. Donc, on a mis sur pied mm-hmm. notre programme de défense des droits. Puis encore là, notre programme de défense des droits, il outille les personnes aveugles soit à mieux connaître, à mieux défendre eux-mêmes leurs droits, mais on a aussi le côté sensibilisation. On a même mis sur pied là, notre école de chiens guides qui a été créée.
Ça, c'est un beau projet.
Ben oui, pour répondre à la demande parce qu'il n'y en avait pas là, suffisamment élevé au Canada. Et ensuite, il y avait aussi aperçu un gros taux de chômage, 3 fois plus élevé que le reste du Canada. Donc, on voulait aussi là, ouvrir les portes du travail, dans le fond, renverser la vapeur. Donc, on avait créé notre programme en emploi qui est nouveau aussi. Ce programme-là, bien, c'est vraiment de mettre les candidats aveugles en relation avec des employeurs qui veulent découvrir un nouveau bassin de talent. Mm-hmm. Puis on leur offre, là, on outille les personnes aveugles avec des ateliers, avec du coaching, mais on leur offre aussi du mentorat, du réseautage, puis l'occasion là, d'avoir un emploi avec nos partenaires.
Ouais,
donc
c'est
nous, on a toujours été connus beaucoup pour le psychosocial et la techno, on a toujours été experts là-dedans. Donc dans le psycho, on a des groupes de soutien et d'entraide pour s'adapter à la perte de vision, échanger avec d'autres des conseils, des trucs, un peu briser l'isolement. Puis avec la techno, on forme les personnes là, à utiliser soit Internet, l'ordinateur ou encore les téléphones intelligents avec la revue d'écran ou l'agrandissement d'écran là, selon l'adaptation qu'ils utilisent avec nos experts. Donc c'était là depuis longtemps, mais on a eu plusieurs autres programmes. Je pense à jeunesse aussi, à loisirs. Le loisir, il est plus axé sur la culture, la détente, un peu en lien avec notre côté plus psycho, pour vraiment le permettre aux personnes de s'affirmer, de gérer mieux leurs émotions,
ouais,
de
ça.
Se dépasser.
Il y a quand même, je voyais des chiffres, c'est pas nécessairement des chiffres récents, mais je voyais juste en Ontario, je pense que c'était des chiffres qui dataient peut-être de quelques années, mais qu'il y avait quand même 70 000 personnes qui vivaient en situation de cécité partielle ou complète, mais vous, c'est à travers le Canada quand même, et puis au Québec notamment, mais
Québec, il y en a plus de 200 000
quand
qui
même,
vivent avec
c'est
une
ça,
limitation
c'est quand même
visuelle.
Important. Ouais. Bien sûr qu'avec la population qui vieillit, ça reste un problème souvent, un problème peut-être de gens vieillissant, c'est-à-dire que bon, au niveau des années, c'est sûr que là, il y a certainement une clientèle qui est plus importante, mais il y a des jeunes aussi parce que bon, il y a toutes sortes de maladies dégénératives, il y a plein de choses, mais donc effectivement, vous offrez des programmes beaucoup à une clientèle adulte, mais aussi à une clientèle beaucoup plus jeune.
Oui, effectivement. Bien, en fait, INCA, on dessert tous ceux qui vivent avec une limitation visuelle et leurs proches, et peu importe leur âge et peu importe où ils habitent. Là. Comme ici, c'est partout au Québec, ça peut être partout au Canada parce que c'est un organisme national. Et nos services sont gratuits puis sont offerts en personne ou en virtuel, via Zoom. Souvent, là, ça va être en ligne ou par téléphone. Puis, on a un programme jeunesse. Donc, les gens, dès qu'ils ont un problème avec leur limitation visuelle, dès que ça cause un défi, ils n'ont pas besoin d'être légalement aveugles pour venir à INCA. On va être là, on va les accueillir. Mm-hmm. Donc, ça peut être des aînés qui viennent de perdre la vue, ça peut être des gens que ça fait longtemps qu'ils ont perdu la vue, mais que là, ils ont des nouveaux deuils ou des nouvelles choses qu'ils veulent accomplir. Donc, on offre des services à toutes les étapes de leur vie pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir puis vivre la vie qu'ils souhaitent. Et nous, notre programme, je dirais jeunesse, il est plus axé sur beaucoup la littératie. Donc, on sait que ça va aider éventuellement à avoir plus de chances d'emploi. Puis, on veut aussi les encourager beaucoup à poursuivre leurs études postsecondaires, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il y ait les mêmes chances que les étudiants voyants. Puis d'ailleurs, dans notre prochain plan stratégique, on va beaucoup s'attarder aux enfants, puis qu'il y ait les mêmes chances.
Ben oui, évidemment, c'est ça. Puis les mettre, comme vous dites, en lien avec des employeurs qui ont encore, pour certains, encore des préjugés, bien sûr, mais il y a des employeurs qui ont cette sensibilité aussi. Alors, c'est important. Donc, comme vous disiez, le mentorat, tout ça, il y a plein de services, de formations. Alors, vraiment, c'est un organisme qui est absolument incontournable. Et puis, bon, là, il y a quand même un volet, on va aborder le volet estival, parce que je sais que vous avez quand même pas mal d'activités aussi. Alors, on reviendra sur d'autres aspects de l'INCA, mais juste parler un petit peu du volet estival, puisqu'en fait, on est quand même dans une émission estivale.
D'été. Oui, et on a une grosse programmation estivale, donc ça me fait plaisir de vous la présenter. Bien, en fait, par exemple, pour notre volet plus psychosocial, on avait des groupes Harmonie cet été qui étaient offerts à ceux qui avaient déjà participé à des groupes de soutien, mais qui souhaitaient continuer de s'adapter à leur perte de vision, d'échanger des conseils, des trucs. Donc ça a lieu les lundis en après-midi à notre bureau à Montréal, puis les mardis via Zoom. En techno, on a une formation là, sur le téléphone intelligent intermédiaire. Donc, les gens, ils n'ont pas besoin là, d'être experts. On va leur donner des conseils, des outils, des nouvelles applications accessibles à leur faire découvrir. Ça va avoir lieu le 12 septembre. Donc, il est encore possible là, de s'inscrire. C'est gratuit. On a le webinaire aussi sur l'application Notes. Donc, une formation vidéo pour apprendre à créer nos notes, les classer, les partager avec d'autres personnes ou encore numériser des documents puis les classer dans nos notes. Donc ça va être par vidéo et les gens peuvent la suivre dans le confort de leur foyer.
Ouais.
On a aussi une capsule techno sur le manuel d'utilisation de Jazz. Donc Jazz, c'est la revue d'écran qui lit à haute voix ce qui est sur l'écran d'un ordinateur. Donc on invite les gens à découvrir toutes les possibilités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Jazz. Et tous les vendredis d'été, là, pour le volet techno, il y a notre experte Lynn qui est disponible pour répondre aux questions, soit sur le iPhone, sur les téléphones intelligents ou encore l'ordinateur. Donc, techno, on a une belle programmation cet été. Campagne du côté de la défense des droits aussi.
Oui, c'est ça, une campagne quartier accessible.
Oui, une très belle campagne qu'on avait commencée en 2019 avant la pandémie puis qu'on est très heureux de ramener maintenant que la pandémie est finie puis qu'on peut bouger et sortir.
Tout à fait.
Et notre but, c'était pan-canadien, c'était de faire de nos bureaux des pôles d'accessibilité. Donc, on a commencé ici, là, à Montréal, en voulant faire de Sainte-Marie, le quartier où il y a notre bureau, plus accessible pour que ça devienne un modèle qu'on puisse exporter. Cette année, avec la reprise de la campagne, on a élargi notre territoire. Maintenant, on a inclus aussi le village inclusif qui est la rue Sainte-Catherine, dans le fond, là, entre Berry puis Papineau environ.
Oui,
c'est un petit peu plus large que ça, là, mais ça vous donne un aperçu. Puis le but de la campagne, c'est vraiment de sensibiliser les commerçants, les résidents, les organisations, puis de leur donner des trucs, des conseils facile pour être plus accessible. Donc, vraiment, de les outiller pour qui améliorent.
Ah, ça, c'est un aspect très intéressant, oui, parce que c'est le problème, hein, c'est aussi de se déplacer, finalement. C'est vraiment pour les gens qui sont en situation de handicap visuel, c'est problématique. Et puis, on voit qu'il suffit de sortir pour savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui,
les déplacements, c'est un... Les déplacements et l'accessibilité, c'est souvent un des gros défis. Hein, c'est ça le pire de la déficience visuelle. Il y a le plus gros obstacle, c'est pas ce que les gens peuvent ou veulent faire, c'est le manque d'accessibilité. Puis les déplacements, c'est plein d'obstacles.
Ah oui, mais l'autonomie est bien difficile à ce moment-là.
Ouais, et puis en plus, c'est que quand on peut pas se rendre à une place, là, il y a plein de choses qu'on peut moins faire. Donc c'est pour ça qu'on commence en essayant de rendre l'espace accessible. Puis si vous voulez nous aider à rendre le quartier plus accessible, notre dernière activité de porte-à-porte de l'été pour faire de la sensibilisation va avoir lieu le 15 août. Donc, on vous ouvre la porte. Vous êtes bienvenue.
Oui, parce que vous accueillez toujours des bénévoles, c'est-à-dire que vous avez quand même tout un bassin de gens qui, même, ont un handicap visuel et puis sont bénévoles chez vous. Alors, je pense qu'on a besoin de tout le monde.
Oui, des ambassadeurs aveugles, puis des guides voyants aussi.
Exactement, mettre ces gens-là en lien. Et puis, bon, je pense que les gens s'impliquent quand même. Et il faut dire aussi que vous ne dépendez pas de subventions gouvernementales, c'est-à-dire c'est vraiment des dons. Hein.
Oui, exactement.
Alors, c'est sûr que, bon, vous avez une fondation, tout ça. Alors, c'est sûr qu'il faut... je pense qu'il faut donner généreusement aussi à ce type d'organisme.
Oui,
et puis, il faut le mentionner, le souligner. On pense des fois à tort que vous bénéficiez de fonds publics, mais
effectivement,
c'est pas le cas.
Non, on offre beaucoup de services, mais on dépend des dons, tu l'as très bien résumé, des bénévoles aussi qui nous aident d'un bout à l'autre du pays. Donc, ce sont des services essentiels qu'on aimerait qu'ils soient parfois pris en charge par le gouvernement, mais on est là pour répondre aux besoins puis être là pour vraiment aider les personnes quand il y en a.
Selon les
combler,
besoins,
exactement. Oui, c'est ça, combler les lacunes.
C'est
aussi
vraiment tout un réseau. Bon, puis vous parliez d'un lieu aussi. Vous avez ce que vous appelez le hub.
Oui.
En fait, c'est un terme probablement très moderne aussi pour découvrir. En fait, ça, c'est vous l'avez pensé dans la nouvelle ère de l'INCA, finalement, à partir du 100e anniversaire. C'est quelque chose que vous vouliez faire, avoir vraiment un lieu qui soit un lieu de rencontre, d'activité, un lieu d'échange, et donc physiquement aussi, là.
Oui, exactement. Dans le fond, ce sont nos bureaux, mais qu'on voulait à air ouvert, puis qu'on voulait très accueillant pour que, justement, les personnes aveugles, les bénévoles, tous ceux qui veulent s'impliquer pour la cause puissent se l'approprier. Donc, on a un super espace, on a une belle cuisine adaptée, on a notre centre Mieux Vivre aussi avec des démonstrations de produits adaptés puis de technologies, là, super high-tech, parfois même qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc les gens, c'est un hub, c'est un peu comme un lieu de rassemblement, une plaque tournante.
Une plaque tournante,
ouais,
voilà,
exactement.
C'est ça. Exact.
Donc c'était ça le but. Puis d'ailleurs, on a un comité du hub qui organise plusieurs activités de loisirs. Entre autres, cet été, on a un nouveau groupe de courses. Donc le but, c'est vraiment de... C'est un groupe autogéré inclusif et le but, c'est de réfléchir sur la notion d'inclusion dans le sport, mais bien sûr de courir de façon régulière. C'est un projet, en fait, là, de recherche-intervention en travail social avec une étudiante à la maîtrise de l'UQAM qui est en collaboration avec INCA. Et ça peut être pour des coureurs débutants ou des coureurs expérimentés. Il va y avoir une séance d'information la semaine prochaine, là, le 27 juillet. Et les entraînements, eux, vont avoir lieu là, dès le 1er août. Les mardis à la piste Étienne-des-Marteaux, le soir à 18h, et les jeudis au chalet du parc Maisonneuve. Puis les gens pourront venir. Donc, les gens qui ont le goût de courir, qu'ils soient coureurs aveugles ou non, voyants ou non, peuvent se joindre et quand ça leur adonne pour participer à ce groupe-là. Donc, ça, c'est une de nos activités de loisirs. Mais on a aussi une visite au MAC qui s'en vient, donc le Musée d'art contemporain.
Musée d'art contemporain, exactement. Donc, alors, c'est toutes sortes de belles activités comme ça pour l'été. Juste aussi dire que vous avez une boutique en ligne. C'est intéressant parce que quand même, là, on a accès à certains objets adaptés. Bon, je pense que les gens qui sont concernés, bon, le savent, mais quand même, juste dire au grand public que ça existe. Alors, si on a besoin d'objets adaptés, vous avez plein d'objets intéressants.
Oui, c'est le centre Mieux Vivre d'INCA. Donc, comme je disais, au hub, il y a moyen de voir certains objets, d'essayer certains objets. Mais oui, c'est à la base, on est le plus grand détaillant de produits adaptés au Canada. Donc, en allant à notre boutique en ligne ou en contactant notre conseiller Mieux Vivre pour essayer de trouver ce qu'on a besoin, le produit qui peut nous aider dans notre quotidien. C'est vraiment fait pour ça. Et on a aussi le programme le Techno à la maison qui permet d'essayer les produits dans notre milieu de vie, s'assurer que ça répond à nos besoins, que c'est que ça va aider, que c'est ce qu'on pense. Donc, notre but, c'est vraiment là, de guider les gens. Puis parfois, ben, souvent, si c'est possible de le prendre avec le centre de réadaptation puis de l'avoir gratuitement, on va les encourager à le faire. Mais on le sait qu'il y a de l'attente, puis on veut donner la possibilité aux gens, s'ils veulent en acheter, s'ils ne sont pas éligibles au centre de réadaptation, ouais, qu'ils puissent le faire.
C'est ça. Bon, ben écoutez, on espère que l'intelligence artificielle va servir à quelque chose et entre autres, oui, aux gens qui ont des problèmes, qui vivent avec ce problème de cécité partielle ou complète. Merci beaucoup, Sarah Rouleau, d'être venue nous en parler de l'Institut national canadien des aveugles. Évidemment, vous êtes très dynamique, j'adore.
Merci.
Alors vraiment, on vous encourage et puis on n'oublie pas de faire des dons, bien entendu. Merci, au revoir.
Ben oui, merci. N'hésitez pas à aller sur inca.ca.
Parfait. Et j'en profite pour saluer tout le monde, bien sûr. Merci à Jennifer Ando, bien sûr, pour la recherche. Et je vous retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h. Aime l'été.